Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au Forum de la Presse, le rendez-vous hebdomadaire du studio Kalangou. Cette semaine, les sujets qui ont dominé l'actualité s'articulent autour de l'acheminement au Hadj des pèlerins nigériens. Ensuite, nous parlerons du Forum intercommunautaire d'Agadez sur la thématique paix, sécurité et la cohésion sociale, présidé par le président de la République, Bazoum Mohamed, le 30 juin et le 1er juillet. L'actualité, c'est également les préparatifs de la fête de Tabaski qui sera célébrée samedi 9 juillet 2022 au Niger. Pour commenter et analyser tous ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Alhaji Mahamadou Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Alhaji Mahamadou Souleymane, bonsoir.
Bonsoir Mouktar.
Ousseyni Sajibo, journaliste indépendant. Ousseyni Sajibo, bonsoir.
Bonsoir.
Et Memouna Diado, journaliste indépendante. Memouna Diado, bonsoir.
Bonsoir Mouktar.
À la modération, je suis Mouktar Hamadou. Nous débutons ce forum de la presse de ce vendredi 8 juillet 2022 par les péripéties du Hadj 2022 au Niger. À la date du 7 juillet 2022, 6377 pèlerins nigériens sur les 7194 ont été acheminés en Arabie Saoudite pour le pèlerinage, selon une publication sur Facebook du Haut Commissariat au Hadj et la Umra à Kourou. 817 pèlerins attendent encore d'être transportés avant la fermeture de l'espace aérien de Djeddah prévu ce jeudi 7 juillet. Alhaji Mahamadou Souleymane, que peut-on retenir au sujet de l'organisation du Hadj 2022 au Niger?
Ce qu'il faut retenir, Mouktar, c'est que le transport a été défaillant.
C'est seulement au niveau du transport.
Au moment où nous sommes en train de changer, tu parles de 800
pèlerins.
Effectivement, l'Arabie Saoudite a programmé de fermer donc, à partir de minuit heure du royaume. Mais en ce moment, on est en train de se battre pour le transport.
Il y a eu une dérogation de quelques heures.
Justement. Une heure de temps, j'avais appelé au niveau de Kofo pour me renseigner. On m'a dit qu'on attend les avions. Quoi qu'il en soit, ils disent que tout le monde va être acheminé, mais ce n'est pas évident. Et imaginez le stress.
Oui, tout le monde va être acheminé.
Justement, ils ont dit qu'en fait, ce qui s'est passé, les avions, parce que vous avez au niveau de la primature, il y avait une cellule de crise qui a travaillé. Ils ont fait appel à d'autres compagnies parce que la compagnie Max Air s'est avérée être vraiment défaillante. Donc, n'ont pas la capacité parce que selon nos informations, ils ont des engagements un peu partout. Donc, ils essaient de transporter, donc de faire, voyez quoi, donc, mais ils n'ont pas la capacité de transporter les pèlerins en temps réel. Parce qu'ils ont quand même le gros marché au Nigeria. C'est du business. Donc, on a fait appel en dernier ressort, donc à la dernière minute, en tout cas, à d'autres compagnies.
Mais comment ce choix a été opéré, le choix de Max Air?
C'est cela, justement, le problème. Parce que d'aucuns disent que c'est comme une sorte de monopole toutes ces années, c'est Max Air. L'argument au niveau du Kourou, c'est de dire que, quoi qu'on dise, c'est la meilleure offre dans le transport de pèlerins. Mais la vraie question, est-ce qu'on a fait un appel d'offres pour que toutes les compagnies puissent... Pourquoi, en fait, aussi, quand on sait qu'il est avéré depuis 11 ans, il est défaillant, pourquoi ne pas diviser la porte peut-être en deux, lui donner la moitié des pèlerins qu'il peut transporter et donner la moitié à une autre compagnie. C'est une autre possibilité. Mais le Kourou avait programmé le départ le 23 juin. Si, effectivement, il y avait un minimum d'efforts au niveau de la compagnie, une semaine était suffisante, donc du 23 au 30, ça, 30 donc, juin, c'était suffisant pour acheminer tout le monde. Parce qu'on n'a que 7193 pèlerins. Le dimanche passé j'étais avec des pèlerins pour le test PCR. Mais beaucoup nous ont confié qu'ils ont du mal de cœur, ils ne dorment pas, ils sont stressés. Mais imaginez, par exemple, quelqu'un qui va faire le Hadj, il y en a qui sont là-bas depuis deux semaines. Demain, c'est le Arafat. Autrement dit, à partir de demain, c'est pratiquement la fin du Hajj. Tu es encore à Niamey. Donc, vous voyez, moi, je pense qu'il est important de tenir les leçons que, franchement, on ne peut pas continuer à gérer le Hajj de cette façon. L'État doit respecter le droit du pèlerin. Parce que moi, je pense que c'est avant tout une affaire religieuse, comme l'a dit quelqu'un. Les pèlerins sont des invités de Dieu. Ces gens-là, je suis sûr que chercher à leur faire du tort, c'est faire du tort au pays. Comme je pense, c'est une question de souveraineté. Le transport de pèlerins, certes, il est dit qu'aucune compagnie ne peut transporter le pèlerin nigérien sans être désigné donc, par l'État. Il appartient justement à l'État de vraiment considérer
donc,
que...
Donc la défaillance se situe au niveau de l'État.
Mais justement, autrement dit, parce que tout simplement, c'est l'État qui désigne le transporteur. Donc, pourquoi, en fait, le Max Air s'avère être chaque année la compagnie qui est désignée pour le des Nigériens. Donc, je pense que, véritablement, on ne peut pas faire la même chose tout le temps.
Houssein Issa, dans un point de presse animé par le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, le 29 juin passé, au sujet des inquiétudes suscitées, il a indiqué que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour une réussite totale du Hajj 2022. Comment expliquer une telle situation?
Non. Quelle situation? Il a tout expliqué à la Souleymane. Pourquoi privilégier une compagnie chaque année, d'une année à l'autre, on voit ce qui se passe. Le Hajj, on doit être sur place avant même que les rites ne commencent. Mais on va attendre. Après, on essaie de venir expliquer aux citoyens, ah voilà ce qui s'est passé, nous allons. Il y a beaucoup de compagnies, il y a des grandes compagnies qui sont capables d'acheminer nos pèlerins.
Mais
en temps réel. En temps réel, Ethiopian Airlines, il y a plein de compagnies qui sont capables, avec des gros porteurs, qui peuvent amener nos pèlerins. Mais maintenant, comme on en a fait une affaire où des gens trouvent leur compte, et on a politisé ça, voilà la situation. C'est ça qui est.
Donc la situation du Hajj, selon vous, a été politisée.
Mais c'est politisé. Mais on doit faire un appel à candidature au niveau des compagnies.
C'est quand même une affaire religieuse.
Non, mais c'est une affaire religieuse, mais on met la potée parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dedans. N'est-ce pas? Max Hag n'a pas de représentant ici localement. Alors, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Quand on sait, ces pèlerins-là, ça fait 2 ans, il n'y a pas eu de Hajj, n'est-ce pas? Il y a des gens qui ont payé, mais qui sont attendus. Peut-être parmi ces gens qui n'ont pas pu faire le déplacement qui sont actuellement, parmi ces gens, certainement, il y en a qui ont peut-être depuis 2 ans. Ils attendaient quand même. Oui. Mais on se retrouve dans une situation et quelqu'un va venir sortir pour dire non, voilà, on va trouver une solution. Mais non, on cherche les choses parce qu'on sait que c'est dans un délai limité. Les rites, tout ce qui doit se faire là-bas, il y a un temps limité. Ce n'est pas extensible, n'est-ce pas? Mais c'est quand il a expliqué. Il a dit que les conditions, toutes les dispositions. Mais attends, mais alors? Les dispositions sont prises pour que tout soit se déroule, que ce qui s'est passé. Ça fait combien d'années que ça dure? À l'époque, quand c'était une affaire étatique, où c'était
la NPO,
nos pèlerins allaient tranquillement. Ça ne faisait même pas objet de débat, cette histoire-là. Quand vous payez, le délai, on dit les premiers vols commencent, tout le monde va aller. Mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on programme le vol aujourd'hui, demain. Et le ministre, il va s'occuper pour raconter. Il a raconté sa vie. Alors, la preuve est là. Ça a changé quoi? Dis-moi, ça a changé quoi? Comment? Imaginez, Alaï Souleymane vient de dire le stress. Quelqu'un qui a quitté, par exemple, son village, il vient et qu'on lui dise jusqu'à la veille, c'est-à-dire la veille où c'est vraiment le grand moment du Hajj, il n'a pas bougé Niamey. Et on lui dit que c'est possible, il va aller. Même la fatigue du voyage, quand bien même c'est un avion, c'est fatigant. Alors, c'est quoi ces mensonges?
Memoune Diadou, le ministre Abdelkader Tidiane a relevé que l'inquiétude essentielle est relative au transport. Le COHO avait fait un premier planning qui malheureusement a accusé un retard parce que le premier vol a été organisé le 24 juin et les autres vols ont suivi. Comment éviter de tels désagréments à l'avenir?
D'abord, il faut Il faut reconnaître que le ministre porte-parole du gouvernement a fait un discours politique.
Selon vous ?
Selon moi, c'est un discours politique. Parce qu'il dit que, quoi qu'il en soit, tous les pèlerins seront acheminés avant la date du 3.
C'est ce qu'il avait dit.
C'est ce qu'il avait dit. Moi, si j'étais, en tout cas, parmi ces pèlerins, je préférerais rester.
Attendre l'année prochaine.
Attendre l'année prochaine pour aller effectuer le Hajj.
Dans des très bonnes conditions.
Comme ça se doit. Parce que, déjà, il y a le stress. Vous partez là-bas, le lendemain, c'est le mont Arafat. Qu'est-ce que vous avez pu faire ? Rien. Les autres rites, vous n'avez pas fait. Donc, vraiment, véritablement, nous sommes arrivés à là. C'est parce que chaque année, on ne fait qu'attirer l'attention de l'État dans l'organisation du Hajj.
Chaque année, les mêmes erreurs se répètent. Pourquoi
au lieu de prendre... Non, c'est parce que tout simplement, on ne prend pas en compte les erreurs qui ont été signalées pour pouvoir les corriger, pour que demain, nous ne puissions pas être là. Chaque année, c'est le même problème, le transport des pèlerins.
Mais comment faire pour que ça change ?
Mais comment faire pour que ça change ? Il faut d'abord qu'ils prennent les avis des uns et des autres par rapport à ça, et ensuite par rapport aux désagréments, aux problèmes. Parce que je suis sûr que cette année, on a eu des problèmes. L'année prochaine, ils vont encore revenir sur les mêmes problèmes. Mais maintenant, bon Dieu.
Dans ce cas de figure, que faire ?
J'arrive, nous sommes au Niger.
Oui,
si c'est le transport qui pose problème. Mais est-ce que le Niger, aujourd'hui, ne peut pas avoir les moyens d'avoir son propre avion ? C'est une question qu'on se pose aussi.
On peut s'inscrire dans d'autres pays,
oui.
Tels que le Nigeria,
oui.
Au Mali,
qui peut.
Au Bénin.
Là, on sait que l'année prochaine, on a déjà l'avion qui est là. Ça, c'est vraiment pour transporter les Nigériens.
Mais est-ce que le Niger a les moyens de souffrir ?
Nous avons combien d'agences aussi ? Mais c'est ça aussi. Parce que le problème, tout se situe au niveau du commerce. C'est parce que tout simplement, le Hajj est devenu un fonds de commerce pour d'autres personnes. Et moi, j'ai pitié quand d'autres personnes soutirent de l'argent avec ces gens, ces pèlerins-là qui doivent aller, qui ont cotisé pendant combien d'années ? D'autres ont cotisé 5 ans pour avoir les 3 millions là pour aller. Et quand tu verses les 2 ans là, ils n'ont pas pu aller. Il y a encore un montant qui s'est ajouté. Personne ne sait comment ils ont fait pour avoir le montant là, pour pouvoir aller à la Mecque. Mais aujourd'hui qu'on dise qu'il y a un problème de transport, chaque fois c'est un problème de transport et qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication. Ceux qui sont aujourd'hui à l'aéroport, qui est parti se présenter à eux pour leur expliquer la situation ? Il n'y en a pas.
Alhaji Mahamadou Souleymane, selon toujours le porte-parole du gouvernement, les rotations pour l'acheminement des futurs pèlerins sur les lieux saints se poursuivront avant la fermeture de l'espace aérien de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui n'a pas finalement marché ?
Franchement, du point de vue organisationnel, c'est la suite, mm-hmm. Mais il est évident que c'est le transport qui a tout gâché. Ou du moins, jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas partis. Donc, il faut tirer les leçons. Puisqu'on voudrait faire une gouvernance vertueuse, donc même au niveau du Hajj, le président de la République doit rigoureusement, faire une inspection, vraiment avoir la vérité. Même si ailleurs, a priori, nous avons identifié le problème. Donc, la solution, c'est de cesser d'être complaisant parce que la souveraineté d'un pays, elle ne se négocie pas.
Oui, mais Alhaji, est-ce que le temps ne peut pas subventionner, par exemple, le Hajj ?
Non, écoute, le Hajj n'a pas besoin. Il y a suffisamment d'argent. Le pèlerin paye son argent. Donc, il faut qu'on lui offre un service pour son argent. C'est une seule activité, la seule activité où il y a de l'argent disponible. Donc, le pèlerin qui a payé ses 3 millions, il les paye cash à l'agence. C'est 3 280, il paye cash. Maintenant, tout ce qu'il veut, le billet d'avion, il a payé, les services, les chaises saoudiennes, tout, il a tout payé, sur toute la ligne. Donc, tout ce qu'il veut, c'est qu'on les mette dans les conditions de faire son acte d'adoration. Et c'est ça justement la défaillance. Donc, autrement dit, c'est quand même l'État qui a failli. En fait, nous l'avons dit, il y a des compagnies, quand même, comme tu dis, LS, qui sont vraiment sérieuses. Il ne peut pas venir pour justement 800 ou 1000 pèlerins, mais si on leur donne effectivement une marge où il y a un bénéfice qu'ils vont faire, c'est sûr, en là, une compagnie comme Ethiopian, en 24 heures ou tout au moins en 2 jours, elles vont tout, tout prendre. Parce qu'elles ont des gros porteurs et c'est des personnels de la, de transport. Donc, on le sait très bien. En fait, Max Air, on connaît son mode opératoire. Il y a un grand marché au Nigeria. Il fait en même temps, il fait sa moyen de venir prendre quelques pèlerins, mais il travaille entre temps au, même là-bas au Nigeria, ils ont fait appel à d'autres, compagnies. Donc, par conséquent, on doit tout simplement tirer les leçons vraiment que les transports des pèlerins, on ne peut pas traîner les gens.
Merci Alhaji, on observe une courte pause. Passons à présent au second sujet de ce forum de la presse. Banditisme armé, trafic d'armes et de drogue, orpaillage sont entre autres les thématiques abordées lors du forum intercommunautaire sur la paix, la sécurité et la cohésion sociale organisé du 30 juin au 1er juillet à Agadez. Suivons la synthèse avec le président de la République, Bazoum Mohamed.
L'un des thèmes, c'est celui du trafic des armes. C'est sûr que ce n'est pas une question qui va se régler du jour au lendemain, mais nous allons assurément améliorer nos capacités de renseignement. Nous avons aussi discuté du trafic de drogue transsaharien. Je voudrais vraiment insister sur le fait que nous compterons sur vous pour que les jeunes qui se sont connectés autour du phénomène puissent être démobilisés. Nous avons parlé de l'orpaillage. Et à cette occasion, nous avons surtout mis l'accent sur les défaillances qui sont propres à l'État du fait de ses faibles capacités de lutter contre le fait que cette activité soit surtout envahie par des étrangers qui prennent de la force et qui privent le Niger des ressources auxquelles l'État et les citoyens sont en droit de s'attendre de cette activité. Nous avons enfin largement discuté du banditisme sur les routes. Nous donnerons des instructions très précises pour que ce phénomène se réduise, mais tout cela ne peut se réaliser que dans un contexte de bonne gouvernance.
Ousseyni Sajibo, à l'issue de ce forum, le chef de l'État a vanté la stabilité qui caractérise cette région à risque et a annoncé que l'État compte prendre toutes les dispositions pour prévenir toutes les menaces afin de tirer pleinement profit des opportunités de richesse dont regorge la région d'Agadez. A-t-on besoin d'un tel forum pour promouvoir la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans la région d'Agadez?
Il faut d'abord commencer par dire que cette région a connu deux rébellions, disons jusqu'à peut-être une tentative, une troisième tentative, n'est-ce pas? C'était des rébellions, on sait c'est qui sont derrière ces rébellions-là, n'est-ce pas?
Il y a aussi, il y avait eu du banditisme résiduel.
Oui, mais après la rébellion, bien évidemment, quand les gens ont des armes, ils peuvent aller menacer, prendre. Le résiduel là, banditisme là. Mais ça s'est généralisé, c'est tout le pays aujourd'hui. Il n'y a pas une seule région qui n'est pas affectée par... À Niamey, même on attaque en plein jour les gens viennent, ils braquent, ils prennent, ils tirent sur des gens en plein jour. C'est des choses qu'on ne connaissait pas. Et qu'est-ce qui a amené tout ça? Parce que moi, pour moi, je me suis dit quelque part, bon, ça n'a aucun sens d'aller organiser un forum. On en a organisé à Tillabéri dans l'espoir que la paix va revenir. On a vu comment ça continue. Ça continue encore à affecter la région, n'est-ce pas? Ça veut dire. Il faut
à Difa, ils ont fait un forum intercommunautaire.
Voilà, ils ont fait le forum intercommunautaire. Ça a changé quoi? Moi, j'ai dit, donnons-nous les moyens et créons les conditions. Lui-même, il l'a dit, de la bonne gouvernance. C'est ça la clé. C'est pas autre chose. Réunir les acteurs pour dire, bon, il faut qu'on trouve une solution à ceci, cela. Quand tu as la bonne gouvernance, c'est que les citoyens eux-mêmes, quand tu vois quelqu'un en train de dévier, c'est eux qui vont le prendre. Ils n'ont pas besoin que l'État intervienne, c'est même les citoyens qui vont dénoncer. Mais tant qu'il n'y a pas la bonne gouvernance, quand les gens se disent, bon, quand je prends des armes pour aller me battre, ou pour aller braquer, je peux trouver facilement. C'est ça la difficulté, quand les gens prennent goût à ça, ou ils savent qu'avec les armes, ils peuvent aller prendre les animaux des gens, ils peuvent aller rançonner les populations, mais du jour au lendemain, ils ne vont pas abandonner. Ils ne vont pas abandonner ces histoires de trafic, de drogue et tout et tout.
C'est parce que... Ça veut dire que c'est parce que l'État est défaillant que...
Oui, mais bien sûr, parce que l'État est défaillant, on est tout le temps en train de réfléchir. On a réfléchi à tout dans ce pays-là. Tout. Il y a eu des forums, il y a eu ceci, il y a eu cela, ateliers, séminaires, tout ça. Ça ne suffit pas. Il faut mettre en application les mesures, les recommandations et autres. Le problème de ce pays, c'est ça. On fait des choses, on fait des bonnes choses, mais on ne les applique pas. On prend des bonnes recommandations, mais on ne les applique pas. Mais alors, ça fait que, bon, des gens se disent, bon, je me retrouve dedans. Et il faut craindre pour ce pays. Moi, je dis quelque part, il faut craindre pour ce pays. Parce que à l'allure où vont les choses, avec le taux de chômage et tout, de plus en plus de jeunes vont vouloir se lancer dans ces activités-là pour s'enrichir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Ou on crée les conditions de bonne gouvernance, où chacun peut trouver son compte, chacun peut trouver un travail pour trouver dignement son
Mais est-ce que c'est dû au fait du manque de travail?
Alors, c'est quoi qui pousse les gens dans ce genre de choses? La campagne agricole, ce n'est pas bon. Les gens, ils voient un peu ce qui se passe.
Ailleurs, quand on voit des militaires qui prennent des armes pour aller couper des routes.
Mais c'est des cas isolés. Moi, quand je parle de, c'est des cas isolés, moi, pour moi, ceux qui font ça, d'abord, même le mode de recrutement des militaires, ça, c'est des brigands qu'on recrute dans l'armée, dans la police et tout, souvent. Tout le monde le sait. Parce qu'à l'époque, c'était rigoureux. Mais aujourd'hui, ils rentrent et puis même la qualité de la formation laisse à désirer souvent de ces gens-là.
Memoune Diallo, à l'ouverture des travaux, le président Bazoum Mohamed déclare, je cite, « Si le Niger a tenu bon, c'est parce que vous, ici, à Agadez, vous avez tenu bon et l'onde de choc a été amortie par votre volonté, votre engagement de faire en sorte que notre pays ne cède pas et c'est ainsi que notre pays n'a pas cédé. C'est le pouvoir de Dieu seulement qui peut expliquer cela. » Mais derrière cela, il y a une volonté, il y a un comportement, il y a même une morale et une éthique. Je voudrais par conséquent rendre hommage aux populations d'Agadez. Qu'est-ce qu'on peut retenir au sujet de cette déclaration du chef de l'État?
Ce que j'ai compris par rapport à la déclaration du chef de l'État, c'est que le chef de l'État voulait tout simplement remercier, féliciter cette population,
encourager
à aller de l'avant, à aller vers la réconciliation, parce que en fait, quand on regarde les différentes régions, il y a une stabilité au niveau donc de la région d'Agadez. Donc c'est juste pour dire que la manière où vous êtes en train de marcher pour ramener cette stabilité au niveau de la région d'Agadez, faites en sorte que cette stabilité règne. Et faites en sorte que Agadez soit un exemple également pour les autres régions. Voilà en fait ce que j'ai compris du message du président de la République. Et si aujourd'hui, Agadez en est arrivé à là, c'est parce que tout simplement, je me dis, les différents démembrements de l'État sont en train de travailler.
Là-bas.
Là-bas. C'est ce que moi, je vois. Parce que c'est une chaîne qui est là. L'État, c'est bien sûr, c'est l'État. Et l'État est présent partout. Mais quand ceux qui représentent l'État ne font pas leur travail, ça veut dire qu'il y aura toujours des défaillances. On n'arrive pas à circonscrire certaines ces menaces d'insécurité parce qu'au fond, il y a d'autres qui ne travaillent pas au moment voulu et en temps réel. Le président de la République, il est le président, il est le garant de toute
de
la nation.
De la stabilité, de la paix,
maintenant,
de la cohésion sociale.
Maintenant, lui, il est là. Il attend à ce qu'on lui rapporte ce qui se passe. Mais quand, dans une région, un maire ou un chef traditionnel ou un gouverneur n'arrive pas à faire le travail que lui il devrait faire, donc c'est ça un danger, c'est un autre problème. Et aujourd'hui, il s'est transporté. Nous avons vu, il y a eu des forums. Il y a eu des forums, mais cette fois-ci, le forum, c'est en présence du président de la République. Donc, c'était juste pour aller encourager et que cette région serve d'exemple aux autres régions. Il en a parlé de l'orpaillage au niveau donc, d'Agadez. C'est vrai, les sites-là. Il dit qu'au détriment des Nigériens, c'est d'autres étrangers qui en profitent. Donc, il a beau dire, c'est sûr qu'il y aura des mesures qui seront prises par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut aller vers l'employabilité de ces jeunes-là. Certainement, c'est un message aussi qu'il a fait passer à l'endroit donc de cette jeunesse. Et là, je me dis que si aujourd'hui il a tenu à aller, c'est en marge donc de la cure salée. Et nous savons déjà à Agadez que la cure salée, c'est vraiment un festival qui réunit tout ce beau monde, où tout le monde a envie d'aller voir aujourd'hui ce qui se passe au niveau d'Agadez. Mais voilà que aujourd'hui l'éleveur et l'agriculteur Et de l'autre côté, les citoyens arrivent à rester ensemble en symbiose. Quoi qu'il arrive, quoi, on ne dit pas qu'il n'y a pas de banditisme résiduel ou quelque chose, mais quand même, cette région a résisté. Je pense que cette région va continuer à résister avec la volonté de toutes ces populations.
Mais
toutes ces
comment
populations.
Faire pour promouvoir, pour aller de l'avant?
Mais pour promouvoir, pour aller de l'avant, c'est ça qu'il a dit, il faut continuer à travailler main dans la main. Il faut associer cette population. Il faut que les forces de défense et de sécurité et cette population aient une complicité entre eux. Il faut également, comme je l'ai dit, que c'est une chaîne là-bas. Il faut que tout le monde se mette à travailler, que les gens sachent et doivent savoir pourquoi ils sont là-bas. Ils sont là-bas, c'est pour travailler. Donc, c'est le mérite aujourd'hui. Et quand il y a le mérite, ce n'est pas une seule personne, c'est toute la population.
Elhadji Mamadou Souleymane, quelle est votre opinion au sujet de ce forum d'Agadez?
Je pense que c'est une très bonne chose. Ça, c'est vraiment le style du président Bazoum. On se souvient à la Cœur Salée, donc l'édition passée,
toujours dans la région d'Agadez.
Absolument, il a fait donc la même réunion avec les communautés. Justement, je pense que son souci majeur, c'est qu'il faudrait consolider la paix à Agadez, parce que imaginez ce que la situation aujourd'hui de Nord Tawa, vers Tilia, Tilaberi et Difa. Si Agadez, effectivement, le foyer d'Agadez était vraiment en feu, imaginez ce que ça allait. Donc, il faut consolider. Ils ont quand même aussi, au-delà de cette question de sécurité, par les autres problèmes, en tout cas, sociaux, par exemple, la délinquance juvénile, où vraiment, ils ont dénoncé un certain nombre de phénomènes, parce qu'Agadez, semble-t-il, les jeunes filles, aujourd'hui, dans les mauvaises pratiques, de la chicha, donc, on pense que c'est mal vu. En tout cas, le niveau de dégradation de la situation au niveau de la jeunesse à Agadez a atteint un point où il faut faire attention.
Oui, mais Alhaji Mahamadou, est-ce que c'est aux populations de s'impliquer pleinement pour promouvoir la paix?
Mais la communauté, c'est d'abord le leader.
C'est l'État qui doit s'investir.
Mais absolument. L'État utilise des bras armés, notamment les autorités administratives donc, qui sont là-bas.
Les leaders d'opinion.
Absolument, les marabouts, les religieux. Mais tout le monde, les communautés, en tout cas, c'est une façon en tout cas, de créer les conditions. Et il dit, tu vois, après la réflexion, quand il fait la synthèse, il dit, on va donner des instructions encore. Donc là, où par exemple, la question de l'orpaillage aussi. Vous avez vu ce qui s'est passé, le scandale qui s'était passé à Agadez, où l'or des gens qui a disparu
entre
dans ce pays. Moi, je pense que franchement parlant, c'est inacceptable. C'est toi, la question que les gens l'ont détourné, quoi. Donc, vous voyez, c'est aussi, Rukandiz aussi, il y a aussi l'espoir avec un nouveau repreneur donc, de la question des mines.
Mine d'or.
Avec maintenant le départ de Arriva, donc on a absolument. Bref. Même l'uranium en tant que tel, parce que aussi on dit que sur le marché c'est un peu revalorisé, donc le prix de bref, je pense que c'est, moi, de mon point de vue, la proximité avec les populations, ça permet toujours en tout cas au chef d'entendre souvent des choses qui peuvent lui permettre donc de se corriger. Lorsqu'effectivement le travail est fait, quand il vient avec toute une équipe, les renseignements vont encore profiter pour avoir beaucoup de... Moi, je pense que c'est ça vraiment l'enjeu. Il faut que Agadez, en tout cas, parce que quand même, moi, je pense que c'est quand même... C'est une fierté, Agadez. On a cru que, franchement, quand on regarde géographiquement, en tout cas avec la Libye, on a pensé que c'est Agadez qui allait être...
Qui allait s'embraser.
On a pensé que, véritablement, aussi, les jeunes démobilisés qui ont des armes... Moi, je me souviens, j'avais fait un reportage sur le phénomène des migrations. Les anciens convoyeurs, donc, des migrants, avec le projet de l'Union, avec l'Union européenne, on leur a promis, en tout cas... de mobiliser en fait un échange de leur activité avec laquelle vraiment gagne leur vie,
la reconversion.
Mais vraiment l'aide n'a pas suivi, et on se souvient entre ce qui s'est passé entre le Niger et l'Union en tout cas européenne pour vraiment maintenir les Africains ici, franchement c'est scandaleux. Là aussi je pense que quelque chose n'a pas marché et les gens nous ont donné la forme, parce que simplement notre pays a permis aujourd'hui à arrêter, regarder les conséquences. Même ici à Niamey, Les jeunes migrants aujourd'hui sont là dans les villes agressées aussi pareil. C'est aussi certaines délinquances qu'on ne connaît pas ici chez nous, c'est les jeunes là qui sont là à côté.
Ousseyni Sadjibo, vous avez quelque chose à rajouter rapidement, une minute.
Mohamed Souleymane, c'est qu'il est en train de dire, il faut regarder dans le mois, ce qu'on nous déverse comme migrants, nationalité étrangère. Quand ils prennent en Algérie, Érythréens, Somaliens, on les déverse, on ne cherche pas à savoir. Ça crée une situation qui est là. Parce que souvent, c'est carrément même des anciens milices ou des miliciens et autres qu'on nous déverse dans notre pays. Il faut créer une situation où, dire non, il faut faire la part des choses. Les Nigériens qui vont là-bas, ce n'est pas des gangsters, c'est pas... on ne peut pas nous les déverser ici. Parce que regardez aujourd'hui, c'est cet aspect de la chose aussi. Quand on parle de leur page, mais c'est des gens qui viennent. Comment on peut laisser des étrangers venir chercher l'or chez nous, comme ça, et retourner chez eux? Il n'y a pas un pays au monde qui peut accepter ça. Et moi, j'ai dit, c'est sur des questions comme ça qu'il faut mettre l'accent. D'abord avec le voisin. Cessez de nous déverser tout ce que vous prenez chez vous. Nous avons aussi, c'est des Nigériens, rapatrier les Nigériens. Mais pour ceux qui ont des autres nationalités, vraiment, on n'en veut pas. Parce que ce n'est pas ici qu'ils vont être gérés. Une année, ils ont même brûlé les trucs de Agadez, ils ont même brûlé. Alors, ça crée une situation qui est là. Ça veut dire ne pas parler, discuter simplement pour dire, voilà, il faut créer les conditions pour que ça cesse.
Merci Ousseyni Sa, on observe une courte pause. Au Niger, la fête de Tabaski ou fête de l'Aïd El Adha sera célébrée finalement le samedi 9 juillet au lieu de dimanche 10 juillet, comme annoncé précédemment par le Conseil islamique le mercredi 29 juin dernier. Le Niger, à l'instar de beaucoup d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, le Burkina voisin, va célébrer la fête du sacrifice ou Aïd El Adha le samedi 9 juillet 2022, soit le lendemain de la station Ad Arafat, conformément à la tradition et aux préceptes islamiques. Maimouna Diado, suite à la polémique qui a suivi l'annonce par le Conseil islamique du Niger de célébrer l'Aïd El Kébir ou fête de Tabaski le dimanche 10 juillet, alors que la station d'Arafat a été fixée au vendredi 8 juillet par les autorités saoudiennes, le Conseil était obligé de reconsidérer sa décision. Comment l'expliquer?
Est-ce qu'il a expliqué? Parce que en fait, c'est pas la première fois qu'on se retrouve dans cette situation. Oui, c'est pas la première fois. Il y a une année où c'était la même chose. Au lieu de faire la fête de Tabaski le lendemain du mois d'Arafat, c'était le surlendemain que nous avons célébré la fête de Tabaski. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce qui est sûr, si le Conseil islamique est revenu
sur sa décision,
c'est parce que peut-être qu'il y a eu une petite erreur entre la Lune, l'observation de la Lune et l'observation de la Lune au niveau donc de l'Arabie Saoudite et ici au Niger. Bon, moi je me dis qu'ils se sont excusés en venant pour tout simplement dire que la fête aura lieu bel et bien le samedi, comme l'Arabie Saoudite, le Burkina Faso venait de le dire. Mais d'autres pays, c'est quand même le dimanche qu'ils vont célébrer la fête de Tabaski.
La première annonce a quand même suscité des vives interprétations, des commentaires sur les réseaux sociaux.
Oui, en fait, c'est parce que de tout le temps, nous, étant jeunes même, nous savons que quand il y a le mont Arafat, le lendemain, c'est la fête de Tabaski. Ça, c'est comme ça que nous avons grandi avec. Mais maintenant, peut-être qu'il y a une autre interprétation où chaque pays, je ne sais pas comment est-ce que la Lune, parce que des fois, tu peux voir la Lune de l'autre côté, mais dans ton pays, ça ne peut pas être la même chose qu'en Arabie Saoudite. Mais là, c'est le Conseil islamique, et comme le Conseil islamique est la voie autorisée, en tout cas, nous ne pouvons que suivre la voie autorisée qui est le Conseil islamique. Moi, je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à ça.
Ousseyni Sa, le sacrifice de l'animal pour la fête de Tabaski est une obligation pour tout musulman qui a les moyens de se l'offrir. Que peut-on savoir au sujet du prix du mouton cette année? vous avez été au marché?
Non, il faut aller dans les marchés pour tâter les prix. C'est tout. Mais attends.
Est-ce que vous avez acheté votre animal?
pour l'instant, c'est pas un, ça, ce n'est, ça, ça importe pour les auditeurs. Mais je veux dire, on sait comment les choses fonctionnent. Aujourd'hui, cette année, la particularité, c'est qu'il y a des régions où les moutons ne rentrent pas. Quand tu prends la région de Tillabéri, où on sait d'habitude, c'est une région qui pourvoit Niamey en quantité, mais avec l'insécurité, c'est un peu difficile. Moi, je connais des vendeurs, des gros vendeurs de moutons qui me disent qu'il n'y en a plus. Et ils n'ont même pas, parce que c'est un risque.
Selon vous, pourquoi?
Mais à cause de l'insécurité, la crise sécuritaire. Aujourd'hui, prendre un véhicule pour aller dans ces zones-là, vous prenez un gros risque parce que ce n'est pas évident que vous puissiez, quand il y avait quand même une relative accalmie, vous pouvez prendre votre véhicule, aller à Bonkoukou, aller, comment vais-je dire, à Baleya, au-delà de Baleya, comment, Bani Bangou, tout ça, les marchés, les foires.
Est-ce que cela ne s'explique pas par le vol de bétail dans la région?
Mais c'est qui vole le bétail? C'est les mêmes brigands là qu'on appelle djihadistes. C'est pas eux qui viennent. Ils volent même pas. Ils prennent. C'est pas qu'ils volent.
De force.
Et ils prennent. Mais alors, à partir de ce moment, il y a des gens qui ont été ruinés complètement. Il y a des éleveurs et tout et tout. Ils viennent, ils tuent, ils s'en vont avec le bétail. Et ça continue encore. Et ça crée cette situation-là.
C'est ce qui explique la cherté du prix du mouton.
Non, ça n'a rien à voir. La cherté, là, vous savez, c'est comme quand il s'agit de la fête de Ramadan, où on dit la pintade, ceci, le poulet, ceci. Les gens, c'est toujours, quand une fête est là, il y a toujours la spéculation. Les gens, ils achètent. Il y en a qui sont entrés dans ce marché-là, dans cette activité-là. Ce n'est pas des éleveurs, ce n'est pas des vendeurs de moutons. Mais ils font ça parce qu'ils se disent que c'est le moment propice où ils peuvent gagner beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens à Niamey, quand ça approche, ils achètent des moutons et ils font la spéculation. Et c'est ça qui explique cette situation de cherté. Ça coûte cher, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, un mouton, vous demandez le moindre petit bélier que vous demandez, on va vous dire au moins 100 000 francs. Alors, ce n'est pas tout le monde qui peut disposer de 100 000. Mais bah, les gens, quand on voit, contrairement aux autres années, cette année, on n'a pas l'impression que les gens sont dans la tendance de vouloir faire l'ostentatoire. Là. Il y en a qui ont les moyens, ils peuvent faire ça. Mais il y a beaucoup de gens, ils se posent la question, mais pourquoi? Quand tu fais les rapports, je dois payer l'eau, je dois payer l'électricité, je dois payer le loyer. Je veux me passer d'un bélier pour juste une affaire de 24 heures ou 72 heures. C'est un peu ça la difficulté, c'est ça qui fait la cherté. Maintenant, on ne sait pas, jusqu'ici ça coûte cher, mais peut-être que le jour ou demain, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont s'y raviser.
Aladji Mahamadou Souleymane, pour réduire la consommation du bois pour la grillade de la viande pendant la fête de Tabaski, les jeunes défenseurs de l'environnement encouragent le concept de Tabaski écolo depuis 5 ans. Selon Sani Ayouba, un des initiateurs de cette initiative, à Niamey, 50 000 tonnes de bois, soit l'équivalent de 2 mois de consommation, est utilisée en une seule journée. Comment amener les Nigériens à adopter un changement de comportement envers l'environnement?
En tout cas, je pense que l'expérience de la chef avec du charbon, la nouvelle méthode, en tout cas, je constate ça a un effet.
Les gens commencent. Lequel de charbon? Le charbon de bois ou bien le charbon minéral?
Le charbon minéral. Pour le moins, en majorité de bois. Effectivement, là, on n'est pas sorti de l'auberge.
Exactement.
Que, ça contribue à ça. Mais en fait, ce qu'ils disent, en faisant du charbon, il faut planter aussi des arbres pour compenser. Mais je pense qu'il y a donc des réflexes. En tout cas, il faut faire attention. Parce qu'on va couper 25 000 arbres pour un besoin de la cuisson. Ouais, par exemple, dans la région des Andes, par exemple.
Là-bas, il n'y a pas de grillade.
Souvent, les gens. Effectivement. J'ai vu même Aïcha Maki en prison. Effectivement, je sais si ça. C'est là-bas chez elle, elle dit qu'elle fera sans grillade, zéro grillade. Oui, c'est très. Je pense que moi, personnellement, une fois, je l'ai expérimenté où on n'a pas
grillé.
Grillé, donc. Mais ça revient à la même chose parce que tout simplement, on va griller ça autrement. Donc, bref, bon, vous savez, en réalité aussi. Ça donne à la fête un aspect de pique-nique où tout le monde va se retrouver, les enfants, on va s'amuser. Franchement, c'est aussi c'est un peu ça la culture quoi, autour de ça.
Oui, mais alors,
la fête aussi, c'est un moment de réjouissance aussi. Ça aussi, on n'a que deux fêtes musulmane. Donc, par conséquent, moi, je suis d'accord, effectivement. Trouvons des solutions, surtout, effectivement, lorsqu'on peut amener suffisamment de charbon minéral. Mais ce que je vois, en majorité, c'est du charbon de bois.
Oui, oui, exactement, Alhaji Mahmoud Souleymane. Comment amener les Nigériens à utiliser ce charbon minéral, puisqu'il existe beaucoup de quantités?
Et c'est cher, certainement. C'est comme vous direz l'autre.
Est-ce que c'est lié à la cherté ou bien aux habitudes?
Les habitudes. Mais ce que j'ai dit aussi, en utilisant la méthode que j'ai vue avec ce qu'ils ont fait là, mettre du charbon, c'est plus économique. Mais moi... On consomme plus moins de bois que quand on met seulement naturellement du bois, quoi. Donc, bref, moi, je pense que c'est les gens qui, en tout cas, qui font ce travail-là, doivent être accompagnés par l'État, les services de l'environnement, pour effectivement faire un truc de sensibilisation. On ne peut que sensibiliser, parce que les nouvelles habitudes-là, c'est toujours, dans n'importe quel domaine, c'est pas évident. Donc, il faut un travail de fond, il faut qu'on voit les gens, peut-être, quand je dis qu'il faut être accompagné, il faut aussi qu'on convainque les gens, peut-être, comment faciliter les gens, s'il faut planter des arbres, tout cela. Moi, c'est un peu cela. Donc, je pense que la fête, c'est devenir une habitude pour les gens. Et ces habitudes-là, il n'y a que des actions, il n'y a que des sensibilisations pour convaincre les gens à chercher des méthodes, en tout cas, de cuisson de leur viande.
Mme Gado, vous avez quelque chose à ajouter?
Moi, je parlerai des épices, parce que je suis une femme aussi.
Oui. Comment ça?
Oui, les épices.
Les épices,
ça
coûte cher aussi?
Ben oui, évidemment.
Le piment?
Évidemment, le piment coûte cher aujourd'hui. Et l'huile, surtout, qui va servir à la friture aussi, ça coûte cher. Parce qu'un litre d'huile aujourd'hui sur le marché, ça fait 1600, 1700 sur le marché. Mais imagine celui qui part, un boutiquier qui part acheter l'huile à 1600 sur le marché, chez le grossiste à 1500, il va revenir pour vendre ça à 1300 et 1800 ou 1700. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une chèreté, la chèreté de la vie. La fête de Tabaski a coïncidé avec cette chèreté de la vie. Donc vivement pour que vraiment les vendeurs, comme l'a dit Ousseini, au Niger, même si ça marche, il y aura toujours des gens qui vont spéculer et qui vont augmenter les prix. Laissons ces prix de côté. On sait qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment... Mais il faut également permettre...
Est-ce qu'on ne peut pas s'en passer de l'utilisation des épices, là?
Mais on ne peut pas s'en passer, toi aussi. L'utilisation des épices,
c'est,
est-ce que tu
c'est
vois...
C'est le détail d'abord. Il faut avoir le mouton. Il faut avoir non, le mouton
est déjà là.
Il faut avoir
le mouton. Le mouton est déjà là. Maintenant, il faut passer aussi à la friture. Mais puisqu'on on sera obligé de frire la viande de toutes les manières, ou bien c'est parce que vous ne voulez pas faire sortir de l'argent de vos poches.
Concernant le charbon minéral, là, il y a eu l'expérimentation, ça n'a pas marché. Il y a même eu un projet qui a été lancé. Parce que c'est difficile de pouvoir
allumer.
Voilà.
Allez, et ça dégage compliqué. Aussi un gaz là, gaz, je ne sais pas, alors, gaz là, vraiment. Donc il faut étudier ça si ils veulent qu'on l'utilise convenablement.
Merci à tous. Nous sommes au terme de ce forum d'Issidio Kalangou. Merci à nos invités. Maimouna Diado, journaliste indépendante. Alhaji Mahmoud Souleymane, directeur de la rédaction du journal Niger Inter. Ousseini Sajibo, journaliste indépendant. Merci aussi à vous tous, chers auditrices, auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs, pour votre fidélité au programme d'Issidio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h sur nos 52 radios pour suivre l'actu des jeunes suivis de tous à la FADA. Et à partir de 18h15 samedi, suivez le forum à Houssa et dimanche celui en Zarma. À la technique, côté son, Seini Issaka. À la régie vidéo, Issa Lawali. C'était Mokhtar Hamadou à la modération du forum. Merci, au revoir.